5. Après le petit déjeuner, Holly remonta dans la chambre d'amis, sous le prétexte de faire ses bagages. Ralph devinait qu'en réalité, elle voulait lui laisser un peu de temps et d'intimité pour dire au revoir à sa femme. Elle avait un petit côté excentrique, cette Holly Gibney, mais elle n'était pas stupide. « Ramage et Yates veilleront sur toi », dit-il à Janet. « Ils ont pris des jours de congé exprès. »
« Rien que pour toi ?»«
Et pour Terry aussi, je pense. Il regrette presque autant que moi ce qui s'est passé. »
« Tu as pris ton arme ?»«
Elle est dans mon sac. Dès qu'on aura atterri, je la porterai à la ceinture et Alec aura la sienne. Je veux que tu sortes ton revolver du coffre et que tu le gardes près de toi. »
« Tu crois vraiment ?»«
Je ne sais plus quoi penser. Au moins là-dessus, je suis d'accord avec Holly. Alors, garde ton arme à portée de main. Mais ne tire pas sur le facteur. »«
Peut-être que je devrais venir avec vous ?»«
Non, ce n'est pas une bonne idée. » Ralph ne voulait pas qu'ils se retrouvent ensemble au même endroit, mais il n'osait pas lui expliquer pourquoi, de crainte de l'inquiéter davantage. Il devait penser à leur fils qui, à cet instant, était en train de jouer au baseball, de tirer à l'arc sur des cibles installées devant des balles de foin ou de fabriquer des ceintures de perles. Derek, à peine plus âgé que Frank Peterson. Derek, qui imaginait, comme tous les enfants, que ses parents étaient immortels.
« Oui, tu as peut-être raison, » dit Janet. « Il faut que quelqu'un reste ici si jamais Derek appelle. Tu ne crois pas ?»
Ralph hocha la tête et embrassa sa femme. « C'est exactement ce à quoi je pensais. »«
Sois prudent. »
Janet levait de grands yeux sur lui. Et il fut transpercé soudain par le souvenir de ce regard rempli du même mélange d'amour, d'espoir et d'inquiétude. C'était le jour de leur mariage, devant leurs amis et leurs parents, lors de l'échange des vœux. « Comme toujours. » répondit-il. Il recula d'un pas, mais Janet le retint par le bras, d'une main ferme.
Cette affaire ne ressemble pas aux autres. On le sait maintenant. Si tu peux arrêter cette créature, cet outsider, fais-le. Si tu ne peux pas, si tu rencontres un problème qui te dépasse, renonce. Fais demi-tour et reviens à la maison. Tu as compris?
Message reçu.
Jure-le-moi.
Je te le jure. De nouveau, il repensa à l'échange de leurs vœux.
J'espère que tu es sincère.
Toujours ce regard perçant, débordant d'amour et d'inquiétude. Ce regard qui disait « Je t'ai offert ma vie, fais en sorte que je ne le regrette pas. »
J'ai quelque chose à te dire, Ralph, et c'est important. Tu m'écoutes ?
Oui.
Tu es quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien qui a commis une sale erreur. Tu n'es pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier. Tu devras vivre avec ce souvenir, et je t'aiderai. Alors, si tu peux arranger les choses, tant mieux. Mais s'il te plaît, ne les aggrave pas. Je t'en supplie.
Holly descendait l'escalier de manière ostentatoire, pour être certaine qu'il l'entende arriver. Néanmoins, Ralph s'attarda face à sa femme, face à ses grands yeux, ainsi qu'autrefois, bien des années plus tôt. Il l'embrassa et recula. Janet serra ses mains entre les siennes avec force, puis le laissa partir. 6. Ralph et Holly se rendirent à l'aéroport dans la voiture de Ralph. Holly avait posé son sac sur ses genoux. Elle se tenait bien droite, très comme il faut.
« Votre femme possède une arme à feu ? » demanda-t-elle.
« Oui. » Et elle s'est entraînée au stand de tir de la police. Les épouses et les filles de policiers y sont admises.
« Et vous, Holly ? Vous avez une arme sur vous ?»
« Évidemment. Je suis venu en avion, et ce n'était pas un jet privé. »«
Je suis sûr qu'on pourra en trouver une. Après tout, on va au Texas. »«
Je ne me suis pas servi d'une arme depuis que Bill est mort. La dernière fois, nous étions sur la même enquête, et j'ai loupé ma cible. »
Ils restèrent muets jusqu'à ce que Ralph se soit faufilé dans le flot de la circulation, dense, qui fonçait sur l'autoroute en direction de l'aéroport et de Cap City. Cette manœuvre dangereuse accomplie, il dit, les prélèvements effectués dans la grange ont été envoyés au laboratoire de la police d'État. À votre avis, que vont-ils découvrir quand ils auront enfin le temps de les examiner avec leur matériel ultra sophistiqué? Vous avez une idée?
D'après ce qui est apparu sur la chaise et le tapis, je dirais de l'eau essentiellement, avec un taux de pH élevé,
et des traces de mucosité, comme celles produites par les glandes bulbo-urétrales, également appelées glandes de Cowper, du nom de l'anatomiste William Cowper qui...
Donc, vous pensez que c'est bien du sperme?
Plutôt du liquide préséminal. Elle avait légèrement rougi.
Vous êtes calé.
J'ai suivi un cours de sciences médico-légales après la mort de Bill. J'ai même suivi plusieurs cours. En fait, pour tuer le temps.
On a retrouvé du sperme à l'arrière des cuisses de Frank Peterson. Une grande quantité, mais pas anormale. L'ADN correspondait à celui de Terry Maitland.
Les résidus prélevés dans la grange et chez vous ne sont pas du sperme, ni du liquide préséminal, même si ça y ressemble. Quand le laboratoire analysera la substance retrouvée à Canning Township, je pense qu'ils découvriront des composants inconnus, et ils mettront ça sur le dos d'une contamination. Ils se réjouiront de ne pas avoir à utiliser ces échantillons devant un tribunal. À aucun moment, ils ne penseront qu'ils ont affaire à une substance totalement inconnue, celle qu'ils exudent ou libèrent au cours de sa métamorphose. Quant au sperme retrouvé sur le petit Peterson, je suis sûr que l'inconnu en a laissé également quand il a assassiné les filles Howard. Sur leurs vêtements ou sur leur corps, une carte de visite supplémentaire. Comme les cheveux dans la salle de bain de Maitland père et toutes les empreintes que vous avez relevées.
N'oubliez pas les témoins oculaires.
En effet, cette créature aime les témoins oculaires. Et pourquoi pas, puisqu'elle peut enfiler le masque d'un autre homme.
Ralph suivit les panneaux indiquant la compagnie d'aviation choisie par Howard Gold.
Autrement dit, vous ne pensez pas qu'il s'agit de crimes sexuels? Ce sont de simples mises en scène?
Je n'irai pas jusqu'à l'affirmer, toutefois...
Holly se tourna vers Ralph.
Du sperme à l'arrière des cuisses du garçon, mais rien... Comment dire? À l'intérieur?
Non, il était pénétré, violé avec une branche.
Aïe!
Holly grimaça.
Je ne pense pas que l'autopsie des deux fillettes ait fait apparaître des traces de sperme à l'intérieur non plus. Il y a peut-être des éléments sexuels dans ces meurtres, mais l'inconnu semble incapable d'avoir de véritables rapports sexuels.
C'est le cas de la plupart des serial killers normaux.
Cette expression, un authentique oxymore du style crevette géante, lui arracha un petit rire. Mais il ne la rectifia pas, car l'unique adjectif de remplacement qui lui venait à l'esprit était « humain ».
S'il se nourrit de la tristesse, il doit également dévorer la douleur de ses victimes au moment où elles agonisent, reprit Holly.
Toute couleur avait quitté ses joues.
C'est sans doute extrêmement savoureux comme un bon plat ou un vieux whisky. Eh oui, ça peut l'exciter sexuellement. Je n'aime pas penser à ces choses-là, mais je crois qu'il est bon de connaître son ennemi. Nous, je pense que vous devriez tourner à gauche, inspecteur Anderson.
Ralph, lui rappela-t-il.
Oui, pardon, tournez à gauche, Ralph. C'est la route de Regal Air.
7.
Howie et Alec étaient déjà là, et Howie souriait.
Le décollage a été légèrement retardé, annonçait-il. Sablo va nous rejoindre.
Il a réussi à se libérer, s'étonna Ralph.
Pas lui, moi, enfin, à moitié. Le juge Martinez a été hospitalisé à cause d'un ulcère perforé. C'est l'œuvre de Dieu, ou d'un abus de sauce piquante. Moi-même, j'adore le tabasco. Mais quand je voyais tout ce qu'il mettait dans son assiette, j'en avais des frissons. Quant à l'autre affaire dans laquelle le lieutenant Sablo devait témoigner, l'adjoint du procureur me devait un service.
Puis-je demander pour quelle raison?
Non.
Le sourire de Howie s'élargit, au point de dévoiler ses dents du fond. Ayant un peu de temps à tuer, ils allèrent s'asseoir tous les quatre dans la petite salle d'attente, d'où ils regardèrent les avions décoller et atterrir.
Howie confia.
En rentrant chez moi hier soir, je suis allé sur Internet pour me renseigner sur les sosies. Car il s'agit bien de ça, non?
Holly haussa les épaules. Ce terme en vaut un autre.
Le plus célèbre double de fiction apparaît dans la nouvelle d'Edgar Allan Poe, William Wilson.
Jenny connaît cette histoire, dit Ralph. On en a parlé.
Mais il en a existé tout un tas dans la réalité. Des centaines apparemment. Même à bord du Lusitania. Il y avait là une passagère de première classe nommée Rachel Withers. Et au cours de la traversée, plusieurs personnes ont aperçu une femme qui lui ressemblait trait pour trait, jusqu'à la mèche blanche dans ses cheveux. Certains affirmaient que ce sosie voyageait à l'entrepont, d'autres qu'il faisait partie du personnel. Accompagnée d'un ami, Madame Withers est partie à sa recherche et on raconte qu'elle l'aurait aperçue quelques secondes seulement avant qu'une torpille tirée par un sous-marin allemand frappe le bateau à tribord. Madame Withers est morte, mais son ami a survécu. Il a qualifié ce sosie de « héros de malheur ». L'écrivain français Guy de Maupassant a croisé son double un jour en se promenant dans les rues de Paris. Même taille, même cheveux, même yeux, même moustache, même accent.
« Ah, les Français !» dit Alec en haussant les épaules. « Avec eux, on peut s'attendre à tout. Je parie que ce Maupassant lui a offert un verre de vin. »
Le cas le plus célèbre s'est produit en 1845, en Lettonie, dans une école de filles. L'institutrice écrivait au tableau lorsque son double parfait est entré dans la salle de classe. Il s'est planté à côté d'elle et a singé tous ses gestes, sans lacrer. Puis il est reparti. 19 élèves ont assisté à la scène. Stupéfiant, non?
Personne ne répondit. Ralph pensait à un melon grouillant de verre, à des empreintes de pas qui disparaissent, et à une chose qu'avait dite le défunt ami de Holly. L'univers est infini. Un concept sans doute exaltant et même séduisant aux yeux de certaines personnes. Pour Ralph, qui s'en était tenu au fait toute sa vie professionnelle, c'était terrifiant.
« Eh bien, moi, je trouve ça stupéfiant !»
déclara Howie, un peu vexé. Alec intervint.
« Expliquez-moi une chose, Holly. Si ce type absorbe les pensées et les souvenirs de ses victimes quand il leur vole leur visage, par le biais d'une sorte de transfusion sanguine mystique, je suppose, comment se fait-il qu'il ne savait pas où se trouvait le centre médical ? Et puis, il y a le cas Willow Rainwater, la femme chauffeur de taxi. Maitland la connaissait pour l'avoir vue entraîner les gamins qui jouaient au basket au YMCA. Pourtant, l'homme qu'elle a conduit à Dubrow l'a appelée madame.
« Je n'en sais rien, » répondit Holly, avec une pointe d'agressivité. « Je sais uniquement ce que j'ai saisi au vol. Littéralement, étant donné que j'ai lu tout ça dans des avions. Alors je ne peux qu'émettre des hypothèses, et ça me fatigue. »
« C'est peut-être comme la lecture accélérée, » dit Ralph.
Ceux qui la pratiquent sont très fiers de pouvoir lire d'une seule traite de très gros livres, du début à la fin, mais en fait, ils saisissent surtout l'idée générale. Et si vous les interrogez sur des points de détail, ils sèchent. Il marqua une pause.
Du moins, à en croire ma femme. Elle fait partie d'un club de lecture, et il y a dans son groupe une dame qui se vante de lire plus vite que tout le monde. Jenny, ça la rend folle.
Ils regardèrent le personnel au sol faire le plein du King Air, et les deux pilotes effectuaient leur tour d'inspection. Holly sortit son iPad et se mit à lire. Ralph constata qu'elle avait un bon rythme de lecture, elle aussi. À 10h moins le quart, une Subaru Forester pénétra sur le minuscule parking de la compagnie Regal Air et Yunel Sablo en descendit, en accrochant un sac à dos camouflage sur son épaule tout en parlant au téléphone. Il mit fin à la communication au moment où il entrait dans la salle d'attente.
« Amigos !» « Comment est-ce ? »
« Bien, » répondit Ralph en se levant. « Allons-y, mettons-nous en route. »
« J'étais avec Claude Bolton au téléphone. Il va venir nous chercher à l'aéroport de Plainville. C'est à une centaine de kilomètres de Marysville, où il habite. »
Alex haussa les sourcils, surpris.
« Pourquoi fait-il ça ? » ?»«
Il s'inquiète. Il dit qu'il a mal dormi la nuit dernière. Il s'est levé une demi-douzaine de fois. » Il avait l'impression que quelqu'un surveillait la maison. Et ça lui rappelle, paraît-il, son séjour en prison, quand tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose, un accident grave, sans savoir quoi exactement. Sa mère commence à avoir la trouille, elle aussi. Il m'a demandé ce qui se passait au juste et je lui ai répondu qu'on le mettrait au courant dès notre arrivée.
Ralph se tourna vers Holly.
Si cette créature existe, et qu'elle se trouve à proximité de Bolton, celui-ci peut-il sentir sa présence ?
Au lieu de protester une fois de plus parce qu'on lui demandait d'émettre des hypothèses, elle répondit d'une voix douce mais ferme.
« J'en suis certaine. »